Arrakis est une planète magnifique quand le soleil est bas. Une planète sèche et sans eau, mais recouverte d'épices. Et forcément, une telle planète attire les convoitises. Voisins d'Arrakis, les Harkonnens, des fumeurs de l'espace, habitent une planète recouverte de riz. Juste du riz. Lassés de cette vie fade et avant d'envahir la planète soja, liquide et marron, ils attaquent Arrakis afin d'en récupérer le précieux curry. En effet, chapeautés par l'empereur Michel Saran, les Harkonnens n'ont qu'un seul but, cuisiner le plus gros pokéball de la galaxie. Mais c'était sans compter sur Paul, les boulangeries, qui contre-attaqueront l'Empire à grands coups de pain, fougasse et ficelle au lardon. C'est ainsi que débutera la terrible guerre des épices. Voilà l'histoire qu'on s'était imaginée en se faisant des films avec la BA du blockbuster de Denis Villeneuve dans l'épisode 58. Mais qu'est-ce que ça raconte en vrai? Douille ou pas douille? Nos avis? Ceux de la presse? C'est parti pour le match retour de Dune.
DJ, kick that shit.
Ça te fait mal quand on te tire dessus?
Je ressens les blessures. La douleur est une simple information.
Votre discours était très éclairant.
Très éclairant? C'est du blabla, oui.
T'intéresses à qui? T'intéresses à quoi, toi? Est-ce que t'en as de la considération?
Tu déconnes, non? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique. T'es nul!
Din, 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 I want you in my room.
C'est bien to get together.
C'est bien to get together. Din, 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 din. Bonjour et bienvenue dans le match retour de Dune, blockbuster de fin d'été des studios Warner et dernier film de Denis Villeneuve. Alors qu'est-ce qu'on en a pensé? Eh ben laissez-moi vous présenter l'équipe avec laquelle je suis aujourd'hui pour vous donner nos avis. Avec moi autour de la table, ma team d'épices du podcast. Elle accompagnera parfaitement ce poisson tout rose que l'on nomme saumon. C'est Clémence, la nette. Salut.
Coucou.
Clémence.
Ah, t'as eu la voix de Baby Annette.
À ses côtés, il est une partousse de saveurs à lui tout seul. L'Asie du Sud se l'arrache. C'est Kevin, le curry.
Bonjour.
C'est vrai que t'es ton succès hein, en Asie du Sud.
Ah oui.
On pourrait le confondre avec un des États-Unis ou encore avec une forte tempête, avec un vent très violent. Et pourtant, ça n'a rien à voir. C'est Clément, l'Origan.
Salut.
Il est là avec nous aujourd'hui. Et enfin, il est le résident principal de la Chambre des Secrets et a une dent contre Harry Potter. C'est William le Basilic.
Ça y a raté. Salut tout le monde.
Quelle complètement absurde. Et si vous trouvez justement ces présentations absurdes, on vous renvoie à notre épisode autour de la BA de Dune dans l'épisode 58. Ah, on va donner nos avis hein, sur Dune qu'on a vu, évidemment. Il n'y a pas plus tard qu'hier, donc c'est encore frais.
Ah, fallait le voir.
Ça gère, m'arrête un peu. mais bon. Où est-ce qu'on va se situer dans cet épisode niveau spoil? Il va falloir l'appeler El Calculator pour qu'il nous donne où est-ce qu'on se situe. El Calculator, salut.
Salut les épiciers.
Salut.
Bonjour El Calculator.
On n'est pas des épiciers, on est des épices.
Le taux de spoil est de 78%.
Tchou.
Merci El Calculator. Donc maintenant, vous savez à combien de taux de spoil on se situe dans cet épisode. Donc libre à vous de continuer hein, si vous le souhaitez. Hein. Peut-être que vous avez vu le film, donc ça ne vous dérange pas. Ou bien vous en battez totalement les steaks. Et dans ce cas-là, restez avec nous. Sinon, on vous conseille d'aller voir Dune, hein, évidemment. Sinon, gros spoil dans votre face. On va attaquer tout de suite nos avis, mais il va falloir qu'on se situe dans la vraie histoire de la vraie réalité. Et puis, ben, ça va être encore Kevin, vu qu'il fait que gagner tous les faitons titres de toutes les émissions de nos parties BA.
Ouais.
Kevin, tu vas désigner qui va nous raconter l'histoire vraie de la vraie réalité. Qu'est-ce que ça donne Dune en vrai?
Alors,
qu'est-ce que ça Dune?
Qu'est-ce que ça Dune?
Pas trop de suspense, hein, vas-y.
J'ai réfléchi.
Il y a beaucoup de monde autour de la table.
Tellement de monde. Et je peux pas désigner William parce qu'il a eu la catchphrase.
Oh,
si, tu peux.
Non, je peux pas. Il a gagné en partie.
C'est gentil.
Donc, c'est toi, Romain, qui va raconter.
Ah merde, putain. Les histoires simples, ok, mais ok, Dune. Bon.
Oui, bravo!
Alors, Dune, évidemment, bah, tout se passe autour de la planète Arrakis, hein, qui est le centre d'intérêt de certaines familles hein, qui tournent autour, parce que Arrakis, évidemment, est une planète pleine de sable dans laquelle regorge l'épice, une denrée rare que tout le monde s'arrache. Et on débarque dans le film, en fait, où les Harkonnens sont virés par l'empereur hein, de cette planète. C'est eux, ça faisait un moment qu'ils étaient sur cette planète et qu'ils dirigeaient un peu comme ça. Sauf que les Harkonnens, c'est des gros, gros méchants, tu vois. C'est Dave Bautista et toute sa bande. Ils sont tout blancs, ils ont des tatouages, bref, ça pue le méchant. Et on en voit la famille gentille, la gentille famille Atreides, donc composée d'Oscar Isaac, Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson. Hein, donc ça, c'est la petite famille, quoi, parents et enfants, qui vont débarquer du coup sur Arrakis. Et qui vont essayer d'instaurer une politique un peu plus sympa, quoi. Donc essayer d'être un peu plus proche du peuple indigène qui sont les Fremen, donc toute la tribu de Zendaya et compagnie. Et va s'en suivre du coup des conflits politiques autour de ça, avec surtout une course au pouvoir, un peu vraiment à la Game of Thrones de l'espace, quoi. Les Harkonnen pas contents vont revenir tout casser, ça va faire des morts par-ci par-là, et le petit Timothée Chalamet, Paul, hein, dans l'histoire, lui est confronté à des visions, et notamment parce qu'il a hérité un peu, comment dire, de pouvoir un peu mystique.
Bah, c'est une espèce de messie, en fait. Hein.
Ouais, donc il se sent lié avec ces indigènes qu'il n'a jamais rencontrés, et pourtant il va être confronté justement à son destin, et poussé à les rencontrer, et voilà. Je ne sais pas si c'est assez clair, mais
c'est
bon, tout
bien.
Ça, sous
très
fond
bien.
De...
C'était super.
Sous fond de gros space opéra d'action et de gros...
Ouais. Et avec des vers dans le sable.
Avec des vers, oui, il y a des vers dans le sable, voilà. Il y a toute une faune spécifique à Arrakis, notamment de gros, gros vers dans le sable qui sont attirés par les vibrations. Donc, il y a une façon de marcher dans le sable et tout. Enfin, tout un délire. Je ne veux pas trop en dire parce que... Ben,
c'est bien résumé.
Il faut garder un peu sous la patte pour nos avis.
Tu as résumé 500 pages en 2 minutes.
Merci.
C'est incroyable.
Putain, j'ai fait des progrès, je suis content de moi. Alors, du coup, qu'est-ce que ça donne d'une ? Déjà, par rapport à la BA, qu'est-ce que ça donne ? Et ensuite, on bascule sur nos avis. Et pour ça, on a une rubrique qui s'appelle le douille ou pas douille.
Douille, 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 pas douille.
C'était une douille.
Douille, 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 pas douille.
C'était pas une douille.
Douille pas douille, l'ABA nous a vendu du rêve, on était hypé, on a même développé le SDA. Le SDA a fait ABA, c'est le syndrome de l'attente, et il peut être très dangereux parce que du coup, on est très très hypé par un film et puis parfois on est déçu. Là pour le coup, qu'est-ce que ça a donné ? Alors douille ou pas douille par rapport à l'ABA, le film, William, douille ou pas douille ?
Pas douille du tout, je m'attendais à un très grand spectacle, bien écrit, bien réalisé, c'est ce que j'ai eu.
Clémence, douille ou pas douille ?
Tout sauf douille.
Ouh. Clément, douille ou pas douille ?
Pas douille, une BA que j'ai trouvé assez fidèle au film et qui avait le bon goût de nous présenter des plans qui sont principalement dans les 15 premières minutes du film, ce qui fait que dès qu'on a passé le premier quart d'heure, en fait, on va découvrir des images qu'on n'a pas vues dans la BA et je trouve ça très bien. Donc une très bonne BA et un très bon film.
Kevin, douille ou pas douille ?
Bah pas douille, c'est un grand film, c'est titanesque, mais néanmoins j'ai pas été épargné par le SDA, on en parlera après.
Et toi Romain ?
Bah pareil, exactement ce qu'a dit Clément, c'est vrai que quand on commence le film, on fait « Attends, ça c'est dans la BA, c'est dans la BA », mais c'est trop bien, du coup il reste plus de 2h30 de film, et on a encore la dose de choses à découvrir, donc c'était trop cool. Du coup tu te dis « Bah voilà, bah, au moins je sais », parce que c'est vrai que quand tu fais les BA, tu te dis bah, « Attends, ce plan n'est pas sorti, donc tu sais où est-ce que tu te situes un peu ». C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne regardent pas les BA, mais nous c'est notre boulot, hein, on y va. Et donc très content, et puis la BA c'est vrai qu'elle balançait de l'épique, beaucoup
de l'épice.
Ouais. C'était très épice, et on retrouve ça dans le film. On va développer tout de suite sur nos avis du coup, on a l'air d'être une seule et unique team là pour le coup.
Oui, il va pas y avoir jaillé.
Allez, qui se lance dans le désert d'Arrakis ?
Je veux bien, si tu veux.
Clément, toujours le premier à se lancer, c'est
oh,
parti.
Non, je ne suis pas toujours le premier.
Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de douille ?
Je rejoins Kevin et toi, je pense, Romain, sur le fait que j'ai été légèrement déçu en sortie de salle, dans le sens où j'ai pas pris une claque aller-retour comparable à Interstellar ou des films comme ça, où vraiment j'étais scotché à mon siège et tout. Cela dit, c'est un excellent film. Le cahier des charges était vraiment intenable. Je sais pas comment il a fait pour... exposer tous les concepts aussi clairement, aussi rapidement et en même temps faire du Villeneuve, quoi. C'est pas que un film fonctionnel, il y a des plans magnifiques tout le temps en fait. Et donc bon, c'est un ravissement en fait pour les yeux, pour les oreilles. Je trouve que c'est une excellente adaptation de Dune, contrairement au film de Lynch, même si on avait dit il avait pas forcément la main dessus. On voit que c'est un fan de Dune, on voit qu'il a tout compris à l'univers, les enjeux, même ce qu'il zappe. Il est obligé parce qu'en 2h35, tu ne peux pas faire 500 pages ou 600 pages d'un livre. Est intelligent et ne manque pas à l'histoire. Et il se resserre du coup sur la relation entre Paul et sa mère, qui est effectivement le centre du livre et qui est le centre du film. Et c'est juste trop touchant. Moi, je ne m'attendais pas à être autant ému parce qu'on m'avait dit que le film était assez froid. J'ai trouvé le film beaucoup moins froid que le bouquin. J'ai été touché moi, par le jeu des acteurs. Et c'est le deuxième point que je veux développer, c'est que le casting est incroyable, vraiment. Tous les acteurs sont excellents. Ils viennent quand même tous d'univers vraiment différents et ils sont tous parfaitement dirigés. Rebecca Ferguson, mais elle est à tomber, franchement. Elle m'a vraiment donné de l'émotion. Chalamet est très bien aussi. La direction artistique est incroyable, les costumes, les décors, les vaisseaux, ça va tout prendre aux Oscars techniques. Je pense qu'il n'y a aucun. Enfin,
c'est quand même
incroyable, enfin, costumes, la direction.
Moi, ça m'a mis le claque. Hein. Ouais. Quand ils débarquent là au début dans le vaisseau, on voit du coup, je crois que c'est les. Je sais pas trop.
Les Bene Gesserit.
Les Bene Gesserit qui débarquent, leurs costumes, ils sont nickel.
Ce plan, il est incroyable, la séquence du verre. Ouais, en fait, c'est plein de moments et plus le temps passe, plus le film il infuse en moi et je me dis c'était quand même vraiment un grand film. Chapeau, franchement, chapeau quoi.
Bah pareil, moi je suis sorti de la salle, pareil, bah ça c'est le SDA aussi qui nous a nourris, hein. On a été totalement plongé dans la promo, un peu, on s'est fait un peu avoir aussi sur tous les adjectifs, les superlatifs, les avis dithyrambiques. C'est un jeu dangereux hein, qu'on joue, hein, mais on y va quand même. Mais c'est vrai que forcément, ça a joué sur notre avis directement en sortant à chaud de la salle. Et bah, comme tu dis, c'est un film qu'on digère. C'est un film qu'on digère et moi, plus ça va et plus j'ai envie de le revoir. Et plus j'ai envie de lui mettre une super note. Donc c'est vraiment un film que j'ai vraiment envie de revoir aussi pour essayer de capter des petits détails et tout. Parce que c'est vrai que c'est une grande fresque, hein, mine de rien. C'est vraiment les plans à la 2009 qui sont très contemplatifs. Alors peut-être parfois un peu trop, où je trouve qu'on aurait... peut-être passer un peu plus de temps à s'attarder sur certains personnages secondaires, notamment Gurney, tu vois, par exemple, j'aurais aimé en savoir un peu plus, ou j'ai oublié son nom, mais celle qui les accompagne à un moment, la Fremen, qui avoue
le docteur, le docteur Kynes, ou...
oui, voilà.
Ouais, qui est important dans le livre.
Voilà, ouais. J'aurais aimé aussi en savoir plus, mais au final, j'avais peur d'en avoir trop et de pas comprendre le film et du coup d'être largué en mode ok très bien c'est un truc pour les geeks, les fans fans de Dune.
Et ça il évite ça.
Et ça non en fait non c'est il fédère tout le monde en fait et puis vraiment on retrouve du Villeneuve quoi et ça fait plaisir parce que la lumière, la patte, super. Après peut-être micro déception sur la musique mais ça il faudrait que je l'écoute peut-être plus à tête reposée.
Je pense qu'on va, tu
on est tous un peu d'accord là-dessus.
Ça, je suis d'accord aussi. Hein.
La musique est bien, Hans Zimmer l'a fait un bon taf, c'est des bonnes compositions, c'est souvent assez arabisant, assez oriental donc ça évoque bien le désert enfin tu sens au niveau de l'arrangement qu'il a voulu faire quelque chose d'épique, quelque chose de prenant avec ses chants de femmes qui reviennent assez régulièrement mais je sais pas, il y a un problème de, alors je sais pas si ça vient de lui spécifiquement ou si ça vient du montage son qui a été fait dans le film mais il y a un moment la musique ça gueule trop quoi et je trouve que ça gâche un peu certaines scènes par exemple les scènes de combat où t'as de la cornemuse bah ça pourquoi pas après tout mais ça franchement ça te flingue les oreilles quoi
je crois après, que c'est la salle hein.
Après c'est peut-être la salle je sais pas ouais. J'attends de le revoir et j'ai pas encore écouté la BO comme ça sans le film mais bon ça c'était le point musique après en Dune je trouve que bon, c'est un film comme vous l'avez dit. Hein, c'est un film qui est vraiment incroyable visuellement. Enfin, je trouve que Villeneuve, il a vraiment une science du plan qui est assez magnifique. Quoi. Tout le début du film, notamment, je le trouve absolument bluffant. Quoi. Il y a que des plans incroyables. Mais si je dois avoir un bémol à faire, et c'est pas forcément de sa faute, c'est que je trouve que c'est un film qui est un peu frustrant. Parce que c'est ça qui est difficile, c'est que là, il est en train d'instaurer une saga au cinéma. C'est un film d'introduction. Et il l'avait même dit en interview récemment. C'est un film d'introduction, donc il doit te poser les bases. Ce qui fait que je trouve, et mon SDA venait de là, que quand je suis sorti de Dune, j'avais l'impression de ne pas avoir vu le film en entier. J'ai l'impression qu'il manquait la deuxième moitié du film. Et c'est un peu dommage. Mais après, c'est tellement un boulot de déjà rendre intelligible cette histoire qui n'est pas forcément évidente à adapter, de le mettre en image avec tous les moyens qu'on peut voir. Franchement, chapeau. Et le point positif de cette frustration, c'est que ça me donne vraiment envie de voir Dune 2. J'ai envie de voir quelle est la suite de ce film.
Bah, il faut,
comment ça fait ?
Il faut que vous vous précipitiez, vous qui nous écoutez, si vous ne l'avez pas vu, en salle pour aller le voir et ainsi donner... plus de chances à Dune 2 voire Dune 3 d'exister hein. Il faut y aller parce que t'imagines la frustration si le truc
et puis
va pas au bout.
Et puis je rajoute c'est un film n'allez pas le voir sur HBO Max allez le voir au cinéma s'il vous plaît
c'est du spectacle
même si vous pouvez pas aller en IMAX que vous avez pas de salle IMAX à côté de chez vous allez quand même au cinéma c'est un film de cinéma c'est un film qui est basé sur la contemplation sur la démesure des environnements qui sont filmés il faut le voir au cinéma
William.
Alors, bah, vous avez dit déjà beaucoup de choses avec lesquelles je suis d'accord. J'ai eu la chance de le voir en IMAX.
Oh,
bien.
Ouais, dans une salle aussi bien calibrée au niveau du son. Donc, c'est vrai que les musiques sont peut-être mixées légèrement fort à certains moments. Moi, personnellement, ça ne m'a pas perturbé parce que dans une salle IMAX, l'environnement est tellement élargi que le son vit et ne vient pas vous percuter directement dans les oreilles. Donc, c'est vrai que si tu es un peu proche de l'écran dans une petite salle tout de suite, tu prends quand même 85 dB dans la tronche, donc ça fait mal. 95 même des fois. Et... bah vous avez tout dit, hein, c'est réussi à tous les niveaux, techniquement c'est incroyable, il a cette manière de cadrer ses personnages toujours en très gros plan, mais en laissant une grosse zone d'exposition de ses décors derrière, ce qui fait que t'as toujours l'impression qu'ils sont vachement perdus dans un espèce d'univers géant, ça marche à fond. La manière dont il a filmé le sable me touche particulièrement. C'est râpeux, c'est âpre. Moi, j'avais presque chaud des fois dans la salle juste en regardant le désert. Enfin, vraiment, c'est d'une beauté.
Mais c'était réfléchi apparemment. Oui, c'est ce qu'il disait. Pas les détails techniques, mais par rapport à cet effet visuel qu'ils voulaient avoir, cet un peu de désaturation.
Ils sont surtout allés tourner dans des déserts où ils savaient qu'ils auraient cette espèce de lumière blanche d'environnement supérieur, donc au-dessus des dunes blanc, pour vraiment essayer de noyer un peu la différence entre sable et atmosphère. Donc oui, ça marche complètement. La musique, moi, je l'ai trouvée du coup très bonne. Je trouve que Alice a fait un très beau boulot.
Alice, ouais,
c'est la chanteuse.
La chanteuse qui est dans sa boîte. Ouais.
On vous renvoie à l'épisode BA si vous voulez savoir qui est Alice.
Voilà, non, vraiment, je trouve que ça réussit à tous les niveaux. Je trouve encore une fois que, de la même manière que Sicario ou Incendie ou d'autres de ses films étaient des vrais cours de cinéma, là c'est pareil, il arrive à rendre ça quand même divertissant. Comme l'a dit Kevin, c'est un film d'introduction, donc oui, à la fin t'es vachement frustré parce que tu sens que le film s'arrête là où l'histoire va, surtout tout le passage spirituel du personnage, ouais, va commencer à prendre de l'importance et t'as envie de le savoir, et puis on va devoir attendre un ou deux ans avant de voir la suite. Si le film marche, il a l'air bien parti pour, donc moi je suis plutôt optimiste. Le film est incroyable, j'ai tout adoré, je trouve que tous les personnages sont extrêmement bien joués, même Jason Momoa qui pourtant
Aquaman.
Et plus un personnage d'action dans le film, je trouve qu'ils arrivent à en faire.
Il est touchant, ouais.
Il est très touchant. Gurney, je pense qu'on va le revoir dans le deuxième film puisqu'on voit pas sa mort, donc c'est, je pense, une préparation de paiement pour la suite. Voilà, je suis très curieux de voir quelle va être l'évolution spirituelle du personnage principal qui est Paul, puisqu'il y a quand même tout un gros truc là-dessus et qu'il a l'air d'accepter cette partie de lui juste à la fin du film. Désolé pour le spoil, on va devoir monter un peu le pourcentage. Et ensuite, voilà, je crois qu'aujourd'hui, Denis Villeneuve est pour moi quand même un des meilleurs réalisateurs qu'on a du moment.
Ah, c'est la relève.
Aussi bien techniquement que dans la narration. Et je pense que je retournerai voir le film en IMAX d'ici la semaine prochaine.
Ça a tout fait sens, je trouve, dans le film. Tout fait sens, des décors aux costumes en passant par la lumière, le storyboard, les scénarios, enfin les plans, tout fait sens.
Et c'est compliqué parce que du coup, comme tout est bien, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer sur le film, en fait, parce que par où commencer ? Dès que tu veux parler d'un truc, tout est réussi à 100%, à part dire que c'est génial. Moi, je n'avais pas de syndrome de SDR en plus, parce que j'avais un peu réussi à esquiver toutes les bandes annonces, toute la promo. Donc, j'y suis vraiment allé en étant très neutre, mais en étant fan du réalisateur, et j'ai pas du tout été déçu.
Et pour toi, est-ce que ça fait sens, Dune, Clémence ?
Mais oui, bien sûr. Non, mais franchement, en fait, je veux. Enfin, pour moi, ça me paraît impossible de ressentir une frustration du fait de ne pas avoir eu une claque ou quoi sur ce film, parce que je fais vraiment une différence avec ce film sur d'autres choses qui peuvent me foutre une grosse baffe dans la gueule, et ça qui est un vrai pur plaisir de divertissement. Mais comme j'en ai pas ressenti depuis trop longtemps, en fait, cette sensation d'en sortir et d'être trop heureuse, trop impatiente de voir la suite... J'avais pas envie que ça se termine, et assez vite, pendant le visionnage, je me suis dit, en fait, je vais pas avoir envie que ça s'arrête, ça va être trop dur. Et vraiment, je pense que j'avais ressenti ça la dernière fois quand j'étais beaucoup plus jeune, quand je voyais des Harry Potter ou quoi.
Ah ouais, ça remonte.
Je renoue en fait un peu avec un truc vraiment innocent que j'avais un peu perdu au ciné. Alors j'en ai vu plein des grosses claques de films dans la gueule, hyper dur, hyper marquant, enfin pas hyper dur, mais hyper marquant, hyper fort. Mais là, c'est pas du même registre en fait pour moi, c'est que c'est vraiment une magnifique œuvre qui m'a apporté du plaisir, quoi, surtout du plaisir. Et alors il y a un truc qui me frappe quand même, c'est qu'il y a plein de gens qui ont toujours reproché à Denis Villeneuve que ça manque d'émotion dans ses films, que ça soit très froid, et j'ai entendu encore une fois sur Dune le même genre de critique. Il y a quand même une partie du public qui considère que c'est très bien réalisé, c'est hyper technique et tout, maîtrisé à tous les niveaux, mais qu'il manque l'émotion et qu'ils n'étaient pas impliqués avec les persos. Et pour le coup, je suis pas du tout de cet avis. Vraiment, comme Clément le disait, j'ai trouvé que le casting était incroyable et qu'ils jouent tous super bien, ce qui fait que je me suis attachée très très vite à principalement tous les personnages, quoi.
Mais je comprends ce que veulent dire les gens, peut-être, parce que c'est vrai que c'est quand même des personnages qui sont froids, quoi, au fond.
C'est puissant.
Voilà, et puis c'est des personnages qui vont vers la découverte et qui vont découvrir une nouvelle planète, une nouvelle culture, et qui du coup vont se découvrir aussi eux-mêmes à travers ça. Donc forcément, ce passage, il est obligatoire. Et puis, tout, à mon avis, tout va exploser peut-être dans l'épisode 2, si j'existe.
Je trouve pas que les personnages soient froids. Je trouve que le personnage de Jessica, donc Rebecca Ferguson, dès le début, amenée comme une Bene Gesserit qui a enseigné plein de choses à son fils, qui a peur pour lui et qui sait qu'il y a quelque chose de très important qui va se passer peut-être autour de lui et qui a plein d'attentes et en même temps de peur, elle est froide à aucun moment dès le départ. Son père non plus. Leto Atreides, il est ultra stylé comme personnage de père, en mode Mufasa en fait.
Ouais, mais
pour
voilà,
Simba,
tu sens qu'ils
quoi.
Ont, ils ont une éducation quand même ultra cadrée, protocolaire.
Mais tu vois, même quand ils quittent leur planète pour aller sur Arrakis, je trouve que c'est hyper. En fait, c'est la manière dont c'est raconté, je trouve que c'est hyper bien raconté. T'es vachement dans un espèce de déménagement hyper fort pour la famille. Ils partent vraiment de leur patrie, ils sont déracinés et ils vont devoir, même si c'est des aspects politiques qui peuvent aussi être vus comme un peu froids. Bah en fait, pour eux, il y a un vrai sens psychologique derrière ça, tu vois, le fait d'aller face à un autre peuple qui ne veut pas être en dessous d'eux. Et vraiment, tout ça, ça m'a vachement parlé, ce qui fait que j'étais attachée autant à personnages principaux que secondaires, et que bah, quand il y en a qui disparaissent, j'étais vraiment triste, quoi. Voilà, donc vraiment, et puis j'ai été très touchée par Paul et Jessica Atreides qui sont au centre du truc. Et il y a des scènes qui prennent le temps pour un blockbuster, par exemple... une scène centrale où ils sont tous les deux lâchés dans le désert et qui sont sous une tente et qui sont en plein deuil, bah en fait, ça peut paraître une longueur dans le film, mais je trouve que ça prend vraiment le temps de développer à quel point c'est dur pour eux et à quel point ils doivent s'en relever.
Mmh. Et ça passe bien, ça, à travers le regard de Rebecca Ferguson, je trouve que ça passe bien, quoi. L'amour qu'elle porte et la protection qu'elle apporte à son fils.
Oui, je vais juste revenir sur deux petits trucs. On avait peur de l'humour. Et bah c'est très bien dosé et en fait il y en a pas.
Il y en a pas, voilà, c'est super.
Mais dans le sens, il y a les deux blagues qu'il y a dans la BS.
Voilà, et elles sont pas traitées comme des blagues en fait, c'est vraiment du dialogue d'amis qui se parlent et du coup ça fonctionne très très bien, c'est pas du gag. Et je voudrais juste revenir sur la froideur des personnages. Moi je fais partie des gens qui considèrent que la froideur chez quelqu'un c'est quelque chose de très émotionnel, tu vois. Et notamment par exemple, tu as ce discours que tu as entre Paul et Shani. Chani, voilà, où elle lui dit ouais, c'est un très bon combattant et tu vas mourir. Et c'est vraiment très très froid leur discussion, mais il y a une espèce d'énergie qui se dégage entre les deux dans leur froideur. Il y a un non-dit où elle n'est pas encore dans un état où elle va comprendre qu'il va être plus pour elle, j'ai l'impression. Et je trouve que dans toute la froideur des personnages, parce qu'ils sont importants, parce qu'ils ont des responsabilités, il y a une espèce de tension émotionnelle qui est présente. Et moi, ça me touche personnellement. Donc j'ai beaucoup de mal à entendre dire qu'il n'y a pas de froideur, enfin que la froideur est nulle chez Denis Villeneuve, quoi.
C'est ce que tu disais, Clément, c'est que ce qui est hyper prometteur, c'est que c'est le premier volet, quoi. C'est ça qui est ouf, c'est que tu sors du film en te disant putain, mais qu'est-ce que ça va être la suite. Enfin, c'est je sais même pas si on peut comparer au Seigneur des Anneaux ou quoi. C'est que vraiment le premier volet est déjà tellement excellent, tu vois. Par exemple, si je compare à, je sais pas exactement pourquoi, mais à Batman Begins, tu vois, c'est 100 fois supérieur. C'est que tu te dis là, il a posé les bases. Donc, effectivement, en fait, c'est un prologue de 2h35. C'est quand même un exercice qui paraît compliqué sur le papier. Et pourtant, c'est divertissant, c'est prenant. T'as peur pour les personnages. Tu découvres tout le temps des choses et tout. Et tu peux pas t'empêcher de dire, putain, mais le 2... Ah ouais, mais allons-y, quoi. Et ça, c'est trop bien. Parce que moi, surtout, ce que j'ai hâte, c'est que le grand public découvre Denis Villeneuve. Je parle du très grand public, parce qu'il est connu des cinéphiles et du grand public globalement. Mais là, vraiment, c'est un film, c'est un blockbuster de divertissement énorme. Et qui va enfin le consacrer comme quelqu'un qui, oui, est bankable, et en même temps, est un artiste. Et pour ça, il n'y a que Nolan, en fait, pour moi. Et Spielberg, tu vois, peut-être. Et donc, ils rentrent tout d'un coup dans une espèce de cercle fermé de réalisateurs qui sont à la fois excellents artistiquement, en même temps complètement divertissants et qui font de l'argent. Et ouais, le 2, je l'attends trop, là.
Bah, là, il devient titu, hein. Il devient titu, ouais. À la Warner, là, pour le coup, parce que du coup, Nolan s'est barré à Universal. Ça peut-être lui laisser champ libre pour d'autres choses.
Justement, en le comparant à d'autres réals, pour moi, il y a un truc qui n'est pas anodin, c'est que dans ses remerciements, il remercie Guillermo del Toro. Et juste pour revenir à la manière dont il raconte cette histoire, bon, c'est une adaptation, mais je trouve que vraiment, dans son adaptation, il a une manière de raconter qui, pour moi, se rapproche vraiment du talent qu'a aussi Guillermo del Toro de si bien raconter les histoires et si bien nous prendre. Et ça tient à la fois... la subtilité de l'écriture psychologique des personnages, ce qui est dit, ce qui n'est pas dit, ce qui est joué, mais aussi à toute la manière dont l'univers est palpable. Parce que vraiment, il a du budget, mais que ce soit le sable, que ce soit les vaisseaux, que ce soit l'architecture, les pierres et tout,
c'est brut,
tout est ultra palpable et on a l'impression d'y être. Tu vois, on est en immersion totale. On sent qu'en fait, chaque détail est travaillé, rien n'est laissé au hasard. à un moment, ça m'a vachement frappé. On voit de très haut, du vol d'un vaisseau, des palmiers, et c'est juste les seuls palmiers qu'il y a dans la ville sur Arrakis. Et il y a une scène, effectivement, un peu plus tard, où on explique l'importance de ces palmiers. Et je trouve que, tu vois, vraiment, il amène les trucs de manière toujours subtile, et même les éléments du roman qu'on peut ne pas connaître parce qu'on peut ne pas l'avoir lu. Des choses assez techniques comme les objets qu'ils ont, la technologie, bah, il arrive à, finalement à nous faire comprendre tout ça sans surexpliquer, ouais. Que ce soit les boucliers, que ce soit tous les équipements des Fremen, on voit tout ça en action et ça passe tout seul, donc moi c'est vraiment un excellent raconteur d'histoire.
Il a réussi à poser les bases technologiques, culturelles, géopolitiques d'un monde qui nous est complètement inconnu. Et pourtant, à la fin du film, bah, t'y es, quoi, t'as compris. T'as pas besoin de mille explications ou quoi. Ils ont des vaisseaux libellules, c'est bon.
Et dedans, c'est quoi. Aussi dû à ces choix artistiques de refuser le fond vert. Je pense qu'il y en a quand même un peu, c'est obligé, mais c'est quelqu'un qui fait. C'est pour ça que je le rapprochais de Nolan aussi, qui fait les choses en vrai, qui tourne en vrai. Et voilà, il n'y a pas de secret, tu le sens. Tu sens le sable, tu sens l'épice, tu sens les verres. Tu sens les vaisseaux, tout existe en fait, tout est voilà, c'est pas comme un Marvel où tu vois que c'est plat.
Enfin, c'est du studio.
Ouais. Ouais, voilà, et même malgré qu'il y a des très bons artistes VFX et tout chez Marvel, mais là voilà ça traverse le temps en fait. Je pense que ça vieillit pas, tu vois.
Aussi cette envie de lier les éléments et les confronter avec même les émotions de ces personnages et aussi leur objectif quoi, leur parcours. Le fait qu'il ait voulu justement montrer dans ce désert sa force, son pouvoir, c'est parce que le désert
est un personnage
à part entière. Ouais. Et je l'ai vu en interview et il disait moi, je voulais qu'une fois qu'on arrive en Jordanie, je voulais que le désert nous balance tout ce qu'il pouvait. Quoi.
Ouais.
Et c'est, heureusement, les dieux du cinéma ont été avec lui et lui ont répondu il a eu le droit du coup à des très beaux plans. Un très beau désert qui fait sens. Une dernière, vas-y Clément.
Après moi j'ai un bémol juste sur le film et c'est là où je sens un peu la Warner en contrôle, même si je pense qu'il a eu une liberté artistique assez grande et tout, c'est le refus de la violence quand même explicite. Il y a très peu de sang, je sais même pas s'il y a une goutte
on
de sang
vrai,
dans,
film.
Enfin, dans la vision il y a la main un peu ensanglantée, mais
ce qu'il faut selon les quotas,
quand ça se tape il y a pas de sang, il y a zéro décapitation et tout, il y a un peu un refus de la violence et du sexe explicite dans le film qui est pas dans le livre, qui est plus cru, notamment avec les Harkonnen, même si on sent quand même leur cruauté et tout, ça c'est très bien fait, mais ils sont beaucoup plus brutaux dans le livre. Et j'espère que maintenant que, enfin, si ça marche le film et que ça fait plein d'entrées et tout, que le 2, peut-être on lui lâchera un peu la bride sur la violence et sur le sexe.
Ça a l'air d'être un truc que la Warner va pas lâcher.
Je pense que je suis un peu naïf. Mais
on va terminer avec Kevin.
Oui, non, mais pour rebondir sur ce que tu disais, mais. Pour la violence, faut se dire aussi que quand tu veux sortir un blockbuster comme ça, d'une telle ampleur, qui est une nouvelle licence pour un studio, même si bon, la Warner a fait des erreurs par le passé, on les connaît, mais bon, il y a quand même des risques commerciaux et leur intérêt, c'est que le plus de monde possible voit le film. Donc, faut que ça soit PG-13, faut qu'il n'y ait pas trop de sang. Et ça m'étonnerait que la saga aille au-delà du PG-13. Franchement, ça m'étonnerait beaucoup. C'est pas dans leur intérêt, en fait.
C'est vrai que ça, moi j'avoue, bon après c'est con parce que c'est pas forcément utile à la fin, mais c'est vrai que ça manque d'un côté très cru, très cruel.
Oui, mais c'est ce que dit Kevin, si tu veux faire rentrer ton public et que tu mets ton PG-13, légalement les salles n'ont pas le droit d'accepter des gens en dessous de cet âge.
Mais ça c'est des considérations commerciales, tu vois. Oui, moi quand je regarde le film, je m'en fous, en vrai j'ai 18 ans, j'ai envie de voir un film guerre et aussi
de la violence et du sexe, ouais. Clément.
Oui, mais justement c'est ça en fait, c'est que
après c'est pas HBO non plus le livre, hein, tu vois. Bon, il y a pas de... voilà, mais c'est quand même un poil plus violent.
Non, bien sûr, mais je pense que c'est un peu un compromis que t'es un peu obligé de faire quand tu bosses sur des films de cette ampleur-là, quoi.
Puis ça permet aussi, du coup, de ramener le plus de public, hein, comme tu disais, Kevin, et notamment les journalistes.
Attends, je peux dire un dernier truc.
Dernier, parce que après,
Alors, pour pas être absolument unanime, il y a pour moi un défaut dans la mise en scène de Denis Villeneuve, c'est les scènes d'action. Justement, je rebondis comme on parlait de la violence. Je trouve que les chorégraphies des scènes d'action ou la manière dont c'est monté, cuté, c'est toujours hyper frustrant. Que ce soit en corps à corps avec Duncan Idaho, là. En fait, il fait toujours des ellipses, il montre pas quand le personnage tombe ou quoi, tout est très coupé. Et du coup, je trouve que tu vois pas les mouvements, c'est hyper frustrant. Et aussi, quand il y a armé un peu contre armé, quand ils se font attaquer, là, Bah, en fait, il te fout des grosses explosions hein, au premier plan, ouais, un peu pour
c'est...
cacher.
C'est pas trop son truc. Ouais.
Ouais.
C'est parce que c'était le même chorégraphe que Kaamelott, apparemment. C'est pour ça.
Non, mais comme Nolan, ils savent pas filmer, ils savent pas trop filmer les combats, en tout cas, d'humains, quoi. Ils ont un peu du mal.
Bon, écoutez, ça, en tout cas, bon, bah, on est assez content de ce qu'on a vu. On va peut-être même aller le revoir, je pense.
Très
là.
Content.
On est très, très content. On vous le conseille, évidemment,
ah oui,
au allez... cinéma.
Oui, oui, allez le voir. Il faut que, économiquement, le film soit rentable pour
vous
qu'il
en prie, le téléchargez pas ce film.
S'il vous plaît.
Voilà, déplacez-vous, allez le voir, allez-y entre potes. Ça vous fera un très bon moment. Et puis en plus, le film peut paraître long comme ça à 2h35, mais en vrai, on voit pas du tout le temps passer. Moi, j'ai pas vu le temps passer.
Pareil.
Mais ça, c'est nos avis. Qu'en a pensé la presse ? Bonne question, n'est-ce pas ?
Oui.
Eh ben, on va aller faire tout de suite un tour du côté de toute la paperasse pour savoir ce qu'ils ont dit sur Dune.
La revue de presse,
c'est simplement pour se faire un avis sur un petit panel comme ça, choisi par Kevin, parce que c'est Kevin maintenant qui va s'occuper de cette revue.
Où... Monsieur RP.
Kevin
et
ou Jean-Kevin, d'ailleurs
et je ne sais pas.
Je ne sais pas, mais mon accent revient quand
même. Choisis
les journaux, Jean-Kevin.
Eh bien, écoutez, la presse est dithyrambique. Nous avons une moyenne de 4 de presse sur Allociné. Nous avons un score de 88% sur Rotten Tomatoes, ce qui est beaucoup.
Putain.
Et on est à 75% sur Metacritic. Donc, c'est quand même des très bonnes notes, sachant que Metacritic, ils ne sont pas très sympas à taper.
En général.
C'est que le début. Hein.
Donc, c'est de très bonnes notes. Et oui, bon, donc la presse, voilà, des avis très emphatiques pour le Dauphiné libéré. C'est du jamais vu depuis Star Wars ou Le Seigneur des Anneaux.
Ah.
Hein. Effectivement, on n'avait jamais vu Dune.
C'est des belles comparaisons.
Merci,
pas depuis,
Dauphiné.
En effet.
Effectivement, c'est
le gratin
c'est
du Dauphiné.
Pour le Journal du Geek, Denis Villeneuve accouche d'un somptueux tableau qui ravira les amateurs de science-fiction, mais aussi les prosélytes. Et la preuve, je n'ai pas lu le livre, j'ai beaucoup aimé.
C'est donc un prosélyte.
Pour Libération, alors là, Libération nous a fait une métaphore assez incroyable, je m'en vais vous la lire. Dune, version 2021, est une cathédrale. Un film plein de pompe, d'or et de majesté. Chaque étoffe ou costume qui s'étale à l'écran est plein de noblesse et témoigne des nombreuses heures de labeur de petites mains savantes. Et ça, c'est franchement sympa.
Ah oui.
Des petites mains savantes, notamment.
Mm-hmm.
Bon, après, on passe au Figaro, maintenant. Journal qu'on aime moins.
Ouh, la revue de presse est orientée.
Ah, ben
d'accord. Elle est belle, la France.
Ben, le Figaro a beaucoup aimé, mais ils ont fait une critique un peu que je comprends pas trop. En gros, ils ont dit que même si sur son chemin, Villeneuve a vu se dresser de nombreux obstacles, il signe une majestueuse fresque d'anticipation écologique.
D'accord. Mais oui.
C'est vrai que c'est très présent dans le film.
Un tour de force, et là, il conclut, on comprend pourquoi l'affiche est verte.
Mais elle n'est pas verte.
Mais l'affiche n'est pas verte,
elle est bleue.
Ils sont daltoniens.
Ah, faudrait peut-être l'écrire aux journalistes.
Elle est cyan.
Encore conquis l'humanité, qui titre Villeneuve au sommet. Et qui nous vante les mérites de Timothée Chalamet, qu'ils étaient curieux et inquiets un peu, ils ont mis ça entre parenthèses, de découvrir dans un rôle aussi casse-gueule. Et pour eux, il convainc Paul Atreides, qui est appelé à endosser malgré lui un costume de messie. Et là, le jeu de mots pour le meilleur et pour l'Empire. On apprécie le journalisme
Humanité.
D'aujourd'hui.
Ah,
l'humanité. Mais bon. On peut pas plaire à tout le monde, il y a forcément des journalistes qui n'ont pas aimé Dune. Et il y a des gens qui n'ont pas aimé, notamment un journal extrêmement important dans la presse cinématographique.
Le Monde.
Télé 7 jours.
Télé 7 jours, je m'attendais pas. Moi j'étais déjà en mode cahier du cinéma, tout ça.
Qui nous parle d'un spectacle hypnotique mais désincarné, avec malgré tout Timothée Chalamet qui arrive à apporter une once d'humanité.
Attends,
ils sont durs.
Heureusement. À Télé 7 jours, c'est toujours dur.
À Télé 7 jours, c'est
en dehors
des
épisodes de Joséphine, ils aiment rien.
Et pour conclure, je vais finir avec Marianne qui n'a pas aimé non plus, qui nous dit que les fans d'Herbert et de ce genre de production grandiloquente, j'insiste sur grandiloquente, seront probablement ravis. Et ceux qui sont insensibles à ce type de spectacle ne grinceront pas trop des dents. malgré les longueurs de la chose et la musique assourdissante d'Hans Zimmer qui interdit toute sieste. Donc on est désolé pour Marianne.
Oui, malheureusement, on ne peut pas dormir dans les
salles. Désolé pour
Marianne
qui n'a pas pu dormir pendant Dune.
Et tout de suite, un témoignage de Jean-Philippe. Oui, Jean-Philippe, apparemment, vous avez voulu faire une sieste à la séance de Dune et vous n'avez pas pu.
Ah, j'ai pas pu, il y avait trop de musique.
C'est assourdissant.
C'était la même personne qui faisait les deux voix.
En tout cas, voilà. En tout cas, on s'était posé la question de savoir si grandiloquent c'était péjoratif. Bah, apparemment, ça l'est.
Ah, ça sort,
c'est plutôt péjoratif.
Et tu sais que depuis qu'on a dit cet adjectif dans l'émission, j'arrête pas d'entendre partout.
Il y a eu des mèmes.
Grandiloquent par là. Par contre, t'as pas pris toutes les critiques.
Non, je suis étonné.
Ouais. Je les ai pas toutes prises, j'ai fait une sélection.
T'en as oublié quelques-unes.
Oui.
Eh oui. Eh oui, Kevin.
Bah, excusez-moi, j'ai lu beaucoup de journaux, je n'ai
moi,
pas tout le temps.
Moi, j'en ai une notamment qui dit « Sous les sunlight d'Arrakis, l'amour se raconte en musique. On a toute la nuit pour s'aimer. En attendant, on vient danser. C'est Gilbert Montagnier Magazine qui dit ça.
Oh. C'est un magazine que tu peux lire sans regarder.
Oh.
Un magazine exclusivement en braille, effectivement.
Oui, et tu as raté aussi la critique des graviers du cinéma, toujours très attendu.
Les graviers, j'adore les graviers.
Et qui disent... alors, c'est le journaliste Patrick Topazov qui dit « Dune nous ravit par son absence quasi totale d'eau et de plantes. Le désert rocailleux est à l'honneur sans qu'une immonde goutte ne vienne gâcher son aride beauté minérale. Timothée Chalumeau fait rougir le fer Gusson pour forger un duo métallique de cinéma. »
Wow.
Oh, t'étais inspiré, dis donc.
Ils ont une belle plume dans ce canard.
Ça a eu 4 galets et demi.
Oh là là.
Ah, j'en ai vu une passer dans une petite revue, je sais pas si vous la connaissez, c'est Les Échos du Distil, qui a écrit 2h36 d'exposition en plein soleil. On a soif d'en voir plus, 5 gouttes de sueur.
Bravo,
sympa.
On a soif d'en... Hey,
Distil Magazine, très bon magazine.
Ah, ils ont le phrasé, hein, Distil Magazine.
Excellent.
On a soif d'en voir plus. Peut-être que William, toi, tu as vu un article.
Non, j'ai toujours pas prêt à lire.
Il a toujours pas compris le concept de cette rubrique.
Si, je l'ai compris, mais vous êtes tellement inspiré que laissez les pros faire.
Merci Kevin pour la revue de presse.
Et je vous en prie.
Écoutez, je pense que Distil Magazine, en tout cas, est...
Les Échos du Distil.
Pardon, autant pour moi,
Tout
Les Échos du Distil.
Tout n'est pas magazine.
Pourrait finir sur notre affiche de Dune.
Est-ce que vous avez vu qu'ils ont fait un magnifique jeu de mots sur exposition?
Oui.
Exposition au soleil.
Bah oui.
Exposition.
J'aime beaucoup leur plume.
Oui, on l'avait relevé.
Oh là là, mais
pas la peine de le mettre
si
en avant.
Attention si tu l'expliques trop.
Oui, j'adore Les Échos du Distil. Désolé, je les suis.
On a toute la collection à la coloc.
Eh ben, on mettra Les Échos du Distil sur l'affiche.
Oui.
Ah là 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 là. Mais dis donc, cette presse, on en apprend tous les jours. Il y a des magazines que moi, je connaissais même pas. Je vous l'avoue. Et pourtant, comme disait Charles Aznavour, il est temps de se dire au revoir,
oui,
les amis.
Il a envie de chanter aujourd'hui. Hein. Il est très mélodique.
Allez, on va passer aux au revoir.
You see, mystery is an intellectual process. But suspense is essentially an emotional.
Voilà, c'était le match retour sur Dune de Denis Villeneuve. Une petite... c'est pas une clacasse, c'est une petite
gifle.
Une petite gifle. Une petite gifle qu'on a pris là avant d'aller se faire un deuxième visionnage, parce qu'on a quand même ultra adoré le film. Hein, on va pas vous le redire, hein, encore une fois, mais en tout cas, courez-y. Et puis ben, pour la semaine prochaine, en termes de match retour, nous partirons du coup sur tout l'inverse de Dune, hein, parce qu'on ira voir Stillwater. Hein. Donc on vous fera un match retour sur Stillwater, hein. Après le désert aride d'Arrakis, Marseille, l'aquatique. J'ai pas trouvé.
Les eaux troubles de Marseille.
Oh.
Ouh.
Du Canebière Magazine a bien aimé.
Ils ont mis 3 pastis sur 5.
Il y a 97 pastis magazine.
Retrouvez-nous FetaBA sur
où
notre site internet,
ouais.
FetaBA.fr,
okay.
Sur toutes les plateformes d'écoute, hein, podcast, de Spotify à Deezer, etc. Mettez-nous des notes, on attend vos avis sur nos réseaux, parce que nous aussi on a envie de savoir ce que vous pensez d'une.
Eh ouais, mais dites-le nous un peu, pourquoi vous nous le dites pas?
Dites-le
pourquoi
nous.
Vous nous parlez jamais d'abord?
Venez
avec
sur Facebook, venez sur Twitter, venez sur Instagram et dites-nous tout ça. Et la semaine prochaine, on match retournera Stillwater avec Matt Damon et Camille Cotin.
Salut.
Et voilà, on vous dit au revoir, on vous fait des bisous. Et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Bisous.
À
bientôt.
Salut. Bye.
Arrivederci. 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 Arrivederci.